Chapitre 16. Tania n'avait plus donné signe de vie, la panthère. Sans argent, sans papier, Léonie n'avait pas d'autre choix que de rester planquée dans le trois pièces du 13e, dont elle avait trouvé un jeu de clés dans le tiroir de la table basse du salon. Elle espérait que le propriétaire ne rentrerait pas trop tôt de son voyage à l'étranger, le temps qu'elle puisse accéder au squat. Par chance, Tania ne lui avait pas piqué son téléphone portable. Il ne lui restait pas beaucoup de temps de communication sur sa carte. Elle pourrait au moins prendre rendez-vous avec les hiboux pour expérimenter l'une de leurs fichues molécules et toucher les 1 500 €. Chaque fois qu'elle essayait d'appeler Denis, elle tombait systématiquement sur sa boîte vocale. Aucune chaîne, pas même les chaînes d'information continue qu'elle regardait sur le grand écran à plasma de l'appartement, ne parlait d'une intervention meurtrière de la police dans un squat du 20e arrondissement. Les célébrités et les opposants politiques avaient renoncé depuis longtemps à défendre les sans-papiers et autres clandestins, trop grand le risque d'impopularité. On préférait s'en tenir au discours dominant, quasi officiel, qui préconisait un retour aux valeurs traditionnelles européennes. On ne tolérerait plus d'entorses, même vénielles, aux lois de la République. Les acteurs, chanteurs, artistes, écrivains et autres intellectuels n'avaient plus d'autre cause à défendre qu'eux-mêmes, un travail à plein temps, avec la multiplication des célébrités vomies par la télé-réalité. Les programmes n'offraient plus que des défilés ininterrompus d'individus de tous âges et de toutes conditions qui venaient partager leurs expériences, leurs obsessions, leurs maladies, leurs goûts, leurs petites et grandes misères. L'assurance, la volubilité, la crudité avec lesquelles ils parlaient d'eux-mêmes sidéraient Léonie. Ils adoraient s'exposer, se plaindre, se disputer, revendiquer, exiger, caqueter, des poules. Fallait voir comment ils se dressaient sur leurs ergots, ébouriffés, si un intervenant émettait le moindre soupçon de doute sur leur sincérité. Ils venaient du réel, eux, pas de ces officines parisiennes où l'on faisait et défaisait les opinions. Ils étaient vrais, inattaquables. Ils s'exhibaient, main sur le cœur, pour susciter compassion ou admiration, et Léonie n'éprouvait pour eux qu'une indifférence teintée de pitié. Elle voyait bien qu'ils ne racontaient pas la vérité, ou racontaient une vérité qui arrangeait tout le monde. Elle les avait vus défiler dans la chambre à cauchemar de tant de destinées, les porcs, les mêmes qui allaient pleurnicher ou se vanter devant les caméras. Ils se montraient devant elle dans leur vérité, dans leur monstruosité, pas telle qu'ils s'efforçaient de paraître. La télé était devenue un confessionnal géant, où l'on s'accusait en grande pompe de fautes vénielles afin de recevoir l'absolution solennelle du public, le souverain des âmes. Léonie se décida à sortir 2 jours après sa mésaventure avec Tania. Elle dénicha 3 tickets de métro dans le fond de son sac. L'un lui servirait à se rendre au squat. Le deuxième lui permettrait de revenir à l'appartement du 13e arrondissement. Le dernier, éventuellement, à gagner l'immeuble délabré des hiboux. Si elle retrouvait Denis et les Bulls, elle n'aurait peut-être pas besoin de solliciter un rendez-vous avec les techniciens du laboratoire. Pas envie de passer 4 jours en tête à tête avec son double infernal. Elle s'aventura avec prudence sur le trottoir. Sa tenue n'attirait pas l'attention. Tania, elle, avec ses mini-jupes, ses bustiers échancrés, ses jambes interminables et son allure féline, ne pouvait pas paraître dans la rue sans que les regards des mâles la prennent en chasse. Léonie marcha tête baissée jusqu'à la bouche de métro, craignant à chaque instant d'être interpellée. Une fois dans la rame, elle s'assit et garda les yeux rivés sur la vitre. Tania, quand même. Elle devait être très malheureuse ou très mauvaise pour faire un coup pareil à une frangine. Elle n'avait pas froid aux yeux, en tout cas. La façon dont elle avait retourné la situation au troquet et tiré sur son agresseur révélait un courage, une détermination, une férocité à toute épreuve. Léonie sortit de la station et parcourut d'un pas rapide l'avenue qui donnait sur le squat. Elle emprunta une ruelle parallèle pour éviter d'être repérée par le patron ou les clients du troquet, longea un grand bâtiment avant d'arriver devant l'entrée principale de l'immeuble. Personne devant l'ouverture défoncée et obturée par une plaque métallique sur laquelle avaient été apposés des scellés. Des grilles installées par les Bulls, il ne restait que des bouts de ferraille tordus et en partie fondus. Les keufs n'avaient pas lésiné sur les moyens. L'explosion avait percé un trou de 2 mètres de largeur et noirci la façade sur un rayon d'au moins 10 mètres. Léonie ralentit l'allure sans cesser de marcher. Des murs de parpaings bouchaient hermétiquement les trois autres entrées de l'immeuble. Elle ne connaissait pas l'accès souterrain dont lui avait parlé Tania. Elle tourna deux fois à droite pour inspecter l'arrière du squat, séparé de la rue par une grille rouillée et une cour pavée d'une dizaine de mètres de profondeur. Là non plus, elle n'entrevit aucune possibilité de s'introduire dans l'immeuble. Comment savoir si Dennis et les autres avaient réussi à quitter les lieux? Elle s'aperçut trop tard que deux keufs, un homme et une femme, venaient dans sa direction, les vautours. Elle se contint pour ne pas prendre ses jambes à son cou, trahie par les battements de son cœur et le tremblement de ses jambes. Le feu de leur regard lui lécha le visage lorsqu'elle s'écarta pour les laisser passer. Ils s'arrêtèrent un instant de parler, puis ils poursuivirent leur chemin et leur bavardage sans s'occuper d'elle. Elle recouvra son calme. Il lui fallait une nouvelle carte d'identité, qui coûterait au moins 500 ou 600 euros. Et de l'argent, vite. Elle composa le numéro des hiboux, tomba sur leur répondeur, balbutia un message. « Eh !» Elle sursauta. Une silhouette avait surgi d'une porte cochère pour s'approcher d'elle en silence. Un jeune noir, coiffé d'une casquette de travers, dont le visage lui était familier, allure de guépard. « Salut ! Tu te souviens de moi ?» Elle le dévisagea sans parvenir à remettre un nom ou un souvenir sur son visage. « T'es la meuf à Dennis, pas vrai ? J'étais de garde la dernière fois que t'es parti du squat. »« Ah oui, l'un des deux pitbulls avec qui elle avait tenu une brève conversation avant de sortir. »« Toi et moi, on a eu le pot, » reprit le jeune noir. « Je venais juste de changer de rue quand ces enculés de keufs se sont pointés avec leur putain d'engin de démolition. J'ai voulu revenir en arrière, histoire de donner un coup de main aux potes, mais c'était trop tard. Les keufs se sont déployés à une vitesse de gueudin, ils ont bouclé tout le secteur. » Et j'ai eu qu'à dégager si je voulais pas recevoir une décharge de 15 000 volts dans le bide.
Tu sais ce que sont devenus les autres ?
Léonie cessa de respirer en attendant la réponse.
Les Bulls ?
Tout ce que je peux dire, c'est que personne les a vus monter dans les paniers à salade. Et que personne les a revus depuis l'attaque. Léonie désigna le bâtiment d'un mouvement de tête. Tu veux dire qu'ils sont encore là-dedans ?
Il y a de grandes chances, Frangine.
Et, tu connais une façon d'entrer ? Le guépard enveloppa Léonie d'un regard sournois.
Ça se pourrait.
Tu peux m'emmener ? Il bougea en rythme, comme il se serait dandiné sur un rap.
Qu'est-ce que je gagne dans l'affaire ?
Léonie le dévisagea d'un air incrédule.
J'ai rien. Rien du tout, on m'a tout piqué, tout. Mon fric et ma carte d'identité.
Hé, y a d'autres façons de payer, Frangine ? Elle se détourna de lui et se remit à marcher sur le trottoir.
« Un porc noir est aussi dégueulasse qu'un porc blanc », lâcha-t-elle sans se retourner.
Elle parcourut une trentaine de mètres avant qu'il la rattrape et la saisisse par le poignet.
« Je m'excuse, Frangine. Je te conduis là-dedans et je te demande rien, d'accord ?»
Elle dégagea son bras d'un mouvement d'épaule. « Pourquoi t'as changé d'avis ?»«
J'ai tenté ma chance, à foirer, pas de quoi en faire des caisses. Tu diras rien à Dennis, hein ?»«
Je m'appelle Jacques. Suis-moi. » Il se dirigea vers le porche d'où il avait surgi quelques instants plus tôt. Léonie lui emboîta le pas en maintenant entre eux un intervalle de 5 ou 6 mètres. Ils passèrent sous la porte cochère. Le soleil printanier ne parvenait pas à débarrasser de sa crasse la cour d'immeuble. Jacques se dirigea vers l'une des trois entrées, traversa le hall et s'engagea dans l'escalier qui donnait dans les sous-sols, se retournant toutes les 5 secondes pour voir si Léonie le suivait. Au bout d'un long couloir où rôdait une odeur de moisie caractéristique des caves, ils s'enfoncèrent dans un labyrinthe souterrain et s'arrêtèrent devant une porte qui portait, tracée au marqueur, le numéro 68. Jacques extirpa une grosse clé rouillée d'une poche de son blouson, la tourna dans la serrure, puis, une fois la porte ouverte, alluma une lampe de poche et en promena le rayon sur les cartons vides qui encombraient la minuscule cave. Il invita Léonie à entrer avant de refermer la porte à clé derrière eux et de se frayer un passage dans le Capharnaüm. Il dégagea une entrée arrondie et basse dans laquelle il se faufila. Elle hésita quelques secondes avant de l'imiter. Elle suffoquait à l'idée d'être coincée dans un boyau étranglé. Elle franchit l'ouverture à genoux, en priant le ciel pour qu'elle puisse se relever de l'autre côté. Elle fut soulagée quand elle sentit un courant d'air sur son visage et aperçut Jacques debout au milieu d'un large tunnel.
« Ça pue, hein ? On n'est pas loin des égouts. »
La voix de Jacques se perdait dans les ténèbres. La galerie, baignée d'un air humide et nauséabond,
débouchait au bout d'une cinquantaine de mètres sur une deuxième série de caves dont les trois quarts n'avaient plus de porte.
On y est.
Deux escaliers et un couloir plus loin, ils arrivèrent dans un hall que malgré les amas de pierre, les cloisons éventrées et les meubles renversés, Léonie reconnut au premier coup d'œil. Ils passèrent devant le réduit où travaillaient Vinci Code et Lucie. Il ne restait du minuscule atelier que des feuilles éparpillées et les restes noircis de l'imprimante et de l'ordinateur.
« Ils ont tout défoncé dans le coin !» siffla Chac. « C'est pas des keufs qui ont fait ça, mais des putains de psychos !»
Des plafonds crevés s'étaient déversés des éboulis de poutres, de lattes, de briques et de moellons. Une odeur de poudre froide flottait entre les décombres et les piliers métalliques dénudés. Des rayons obliques tombaient des fenêtres et des interstices des portes et emprisonnaient dans leur halo blême les objets jonchant le sol.
« Reste plus rien ni personne, » reprit Chac.
« Les boules avaient sans doute des planques, » suggéra Léonie.
« Denis te les aurait montrées, non ?»
Ils explorèrent les lieux en restant attentifs au bruit. Les keufs et autres charognards pouvaient débouler d'un instant à l'autre. Il ne s'agissait pas de tomber entre leurs sales pattes. Chac, parce qu'il avait deux ou trois trafics à son actif, plus quelques bricoles à se reprocher, Léonie, parce qu'il n'avait pas de papier et serait renvoyé dardard dans son pays d'origine. Aucune trace des boules ni des autres squatteurs au rez-de-chaussée, seulement des vestiges de vie brisée, des lits renversés, cramés, des vêtements, des chaussures, des livres et des DVD épars, des instruments de musique, des paquets de clopes, des ustensiles de cuisine et des affaires de toilette. On aurait dit qu'une nuée exterminatrice s'était échappée des enfers pour s'abattre sur les lieux. Rien non plus au premier ni au deuxième étage. Les sols des chambres et des autres pièces étaient défoncés. Les keufs avaient sans doute reçu pour consigne de rendre l'immeuble dangereux, inhabitable. Au moins, en attendant que la mairie désigne les promoteurs chargés de raser l'immeuble, plus aucun squatteur n'y mettrait les pieds. Les affaires nécessitent de l'ordre pour prospérer. Pas trop cependant, l'excès d'ordre est incompatible avec la liberté d'entreprendre. Chaque faillit passer au travers du plancher d'un couloir du troisième étage incendié. Le cœur de Léonie se serra. Le squat avait été son refuge après son évasion du foyer d'accueil. Il avait abrité une vie intense, chaleureuse et joyeuse. Les cris, les rires et les disputes résonnaient encore. Elle sentait sur ses lèvres, sur sa nuque, sur ses joues, le souffle tiède et doux de Denis. Ils découvrirent un premier cadavre au quatrième, dans une pièce noire de suie, recroquevillée dans l'armature calcinée d'un fauteuil. Une odeur de chair en décomposition dominait les effluves de bois et de plastique brûlés. Ils s'en approchèrent, malgré l'épouvante qui les saisit à la vue de ce corps déformé, mutilé. Impossible de le reconnaître. Les lambeaux de ses vêtements s'incrustaient dans sa peau craquelée. Il ne restait plus une touffe de cheveux sur son crâne. Son visage n'était plus qu'un masque brunâtre d'où saillaient les dents et les pommettes. Léonie constata avec soulagement qu'il ne pouvait pas être Denis. La basket noircie qui chaussait l'un de ses pieds ne dépassait pas le 44, tandis que Denis faisait un bon 50. Chaque sortit précipitamment de la pièce pour vomir. La chambre de Léonie, au cinquième, était pratiquement restée intacte, hormis quelques lattes du parquet transformées en dentelles sombres par les flammes. La lumière tombait en pluie de la toiture par endroits effondrés. Ce fut dans l'un des greniers, entre les chevrons et les poutres enchevêtrées, qu'ils aperçurent un deuxième cadavre, puis un troisième, et enfin une vingtaine de corps allongés et alignés entre les gravats. Ceux-là n'avaient pas été brûlés, mais exécutés. On distinguait les impacts des balles sur leurs visages, leurs coups, leur poitrine ou leur ventre. Le sang avait séché sur les vêtements déchirés. On aurait pu penser qu'ils dormaient, certains les yeux grands ouverts, les autres paupières closes. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils se lèvent et prononcent quelques mots, mais il y avait cette odeur omniprésente, ce parfum de mort, cette horreur à jamais plaquée sur les visages. Les larmes aux yeux. Léonie identifia d'abord Michael, le chef des Bulls, puis Léa, sa copine du moment, et puis aussi Steve, le rouquin de la bande, et Scotty, le second de Michael, et deux autres filles, des bombes qui traînaient jour et nuit dans les parages des Bulls, et Marc, un petit noir rondouillard dont le cerveau s'était en partie écoulé par sa tempe fracassée. Et Tony, à l'élégance et à la méticulosité proverbiale. Et puis là, tout au fond, étendu sous une poutre. Dennis.
Dennis, surpris dans la mort avec, au milieu du front, deux rides verticales et profondes.
Dennis, dont les yeux fixes, adressait au ciel une ultime prière.
Dennis, frappé en plein cœur et broyé par la poutre affaissée en travers de son bassin.
Dennis, éclairé par un rayon de jour, paré de lumière, Léonie s'effondra sur son corps, secoué de sanglots.
« Putain d'enculés de flics de leur saloperie de race !» gronda Chac. « Ils les ont tirés comme des lapins !»
La façon dont les corps avaient été disposés indiquait en effet une exécution délibérée, un massacre de sang-froid.
« Ils étaient même pas armés, putain ! Ces enculés de keufs, ils ont dû... »
Un fracas monta du rez-de-chaussée, suivi d'un brouhaha. Chac posa la main sur l'épaule de Léonie.
« Faut se tirer, y a du monde en dessous !»
Elle ne réagit pas dans un premier temps, comme si elle espérait, par ses larmes, par son souffle, par ses convulsions, par son chagrin, ramener à la vie le seul homme qui lui eût témoigné du respect, le seul homme qui lui eût regardé avec tendresse. Elle fut battue par l'envie soudaine, puisqu'il refusait de revenir à la vie, de se laisser mourir pour le rejoindre sur l'autre rive.
Chac la tira sans ménagement par le bras. « Faut pas rester là, frangine !»
Elle ne résista pas, anéantie, incapable de prendre la moindre décision. Elle lança un dernier regard sur le corps de Dennis avant d'en être séparée par le rideau de poutre et de chevrons. Chac, impitoyable, la traîna jusqu'à la sortie du grenier. Les éclats de voix et les bruits de pas se rapprochaient.
« Ces enculés vont débouler dans le coin !»
chuchota le guépard.
« Faut se planquer !»